tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui.
Antipsychonique.
Ça sert à être gagnant et avoir un jour.
Aujourd'hui dans Anticychronique, les crocs d'Olivier Nautal.
Nous sommes donc en guerre. Cela se passe au Mali. Pour l'actualité et les événements, je vous laisse avec vos sources habituelles. Je me contenterai de vous faire un rapide débriefing en fin de chronique. Avant, j'en profite donc pour nous rafraîchir la mémoire et combattre certaines contre-vérités sur ce pays. Tout d'abord, il y a l'image tenace, celle qui symbolise l'immigration venue d'Afrique noire dans notre pays. Depuis les années 60, on perçoit les Maliens comme les plus nombreux de ces Africains venus du fin fond de leur brousse pour peupler en masse les foyers de travailleurs immigrés de nos banlieues. Si les autorités maliennes parlent de 4 millions de migrants, soit un quart de la population totale, ils fabulent en incluant ceux qui n'ont plus la nationalité de leur pays ou n'y sont même pas nés. On peut plutôt raisonnablement affirmer qu'ils sont 1 million de nationaux hors de leurs frontières. Or, à l'image des migrants subsahariens dans leur ensemble, les Maliens migrent peu en dehors de l'Afrique. Ainsi, le premier pays d'immigration des Maliens est la Côte d'Ivoire. Viennent ensuite le Burkina Faso, le Sénégal, le Gabon, etc. En France, le ministère des Affaires étrangères estime la communauté malienne à environ 80 000 personnes, dont 48 000 ont un titre de séjour. C'est loin d'une invasion. Au niveau de la géographie sortie de son « à côté de chez soi », le français ne brille guère par ses connaissances. Alors que le Mali, enfin pour être plus précis, la République du Mali, soit un pays d'Afrique de l'Ouest, le deuxième plus étendu après le Niger, et qu'il soit enclavé entre au nord-ouest la Mauritanie, au nord-est l'Algérie, à l'est le Niger, et au sud, d'ouest en est, par le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et enfin le Burkina Faso, le français s'en tape et ne compte pas y passer ses vacances. Historiquement, on imagine que cet État était une colonie tricolore quand tout allait bien en Afrique, enfin surtout pour nous, mais aussi pour les sauvages que nous civilisions. Ma brave dame, on était trop bons. À l'époque, avant le 22 septembre 1960, jour de l'indépendance, ce coin d'Afrique s'appelait le Soudan français et on y pillait les ressources, coton et arachides surtout. Depuis, les multinationales s'en chargent en notre nom et la précieuse gomme arabique qui sert à presque tout dans notre agroalimentaire fait bien des envieux. À part cela, ils sont très majoritairement musulmans, les Maliens. 90% de la population fréquente plutôt la mosquée que l'église ou le temple. C'est à désespérer d'y avoir envoyé des prédicateurs. Il fait chaud, ou très chaud, dans ce pays, entre tropique et équateur, entre désert et delta intérieur de ces deux grands fleuves, le Niger et le Sénégal. La population dont l'espérance de vie n'excède guère les 50 ans est très disparate. Ils ne se ressemblent donc pas tous, ces gens. Eh bien non, même pas du tout, figurez-vous. Ils sont à peine 15 millions et ils trouvent le moyen d'être constitués d'une flopée d'ethnies. Remarquez, nous, on n'est pas tous bretons ou alsaciens, ni même auvergnats. Eux, ils sont surtout bambara. C'est aussi le nom de la langue la plus parlée, bien que notre français soit la langue officielle. Tiens, pendant que j'y pense, autre idée reçue. Avant, pendant le temps béni de la colonisation, ils n'écrivaient et ne parlaient quasiment pas la langue de Molière et de François Hollande, sauf quelques milliers d'une élite blanchie. Ce n'est que depuis l'indépendance que l'analphabétisme recule. Certes lentement, mais ils sont quand même plus de 2 millions désormais à écrire et à parler le français. En plus des Bambara, il y a les Bobos, qui n'ont rien en commun avec les habitants de la butte Montmartre. Les Dongons, les Kassingués, les Peuls, les Sénoufous, les Soniqués, les Sonraï, les joliment nommés tout couleurs, et aussi au nord, les Touaregs. J'en ai probablement omis certains, qu'ils me pardonnent. Pour comprendre un peu ce pays, il faut s'imaginer la différence entre le nord et le sud, entre habiter à Bamako, la capitale bambaricienne, ou Tombouctou, ou encore Gao, ou surtout être nomade en plein Sahara. Pas de chance, l'immense et désertique nord est devenu le terrain de chasse aux infidèles, des tarés d'Allah, qui sont, pour la plupart, tout sauf des Maliens. Le Mali, avant que d'être ce champ de bataille pour une guerre sainte instrumentalisée par des gourous barbus décervelés, c'est surtout une toute autre et riche culture. Ce pays est la patrie des griots, les djellis, ces musiciens poètes qui transmettent l'histoire des hommes et du pays avec leur âme, loin, très loin des fous de la charia généralisée. La musique malienne, c'est aussi la variété enjouée d'Amadou et Mariam, les célèbres non-voyants, mais pas malentendants. C'est aussi, bien sûr, Salif Keïta ou Ali Farka Touré, et bien d'autres, dont le prodige de la kora, cet instrument à cordes traditionnelles, Balaké Sissoko. Jusqu'aux étonnants musiciens du groupe Tina Riven, qui contribuent à inventer un nouveau genre musical, le blues touareg. Au rapport maintenant, bande de planqués. Le nord du Mali est depuis avril 2012 un sanctuaire pour les groupes islamistes. Al-Qaïda au Maghreb islamique, le fameux ACMI, Ansar, DIN et le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujahou. Qui en ont évincé les Touaregs indépendantistes? C'est le jeudi 10 janvier dernier que les choses se sont accélérées. 1200 combattants islamistes s'emparent de Kona, centre du pays, menaçant de continuer leur offensive vers le sud. Le président malien par intérim, Douankouda Traoré, demande l'aide militaire de la France. Depuis, la guerre est enclenchée et cela reste toujours la pire meilleure des solutions.
C'était Anticychronique sur Divergence FM, proposé aujourd'hui par Olivier Nautal.